Bonjour, et bien voilà, vous êtes sur les ondes de Radio Galère pour les carnets hebdomadaires de Comaguerre en compagnie de Yamine à la technique. Bonjour Yamine.
Bonjour à tous.
Merci. Et à mes complices, Roselyne, bonjour.
Bonjour.
Et Habib, bonjour.
Bonjour, marhaba.
Voilà. Alors, je vais commencer à parler d'une petite actualité marseillaise, gentiment. Il s'est ouvert la semaine dernière une exposition dans le fameux MUCEM, dont vous avez certainement entendu parler, concernant l'émir Abdelkader. Alors, un mot quand même sur cette exposition qui est bien faite et qui mérite d'être visitée, bon, qui ne s'adresse pas... Enfin, vous pouvez venir pendant vos vacances, elle est là pour un certain nombre de mois. Mais je voulais parler enfin, de la façon dont la France s'est comportée avec ce monsieur, et qui est expliqué dans l'exposition, mais sur lequel on n'insiste pas assez, parce que je me rapproche là comme ça. Voilà. Donc, l'émir Abdelkader organise la résistance du peuple algérien contre la colonisation française qui démarre en 1830, en gros. Bon. Il va organiser cette résistance d'une façon très efficace, puisqu'il ne sera vaincu que 18 ans plus tard et avec beaucoup de difficultés. Alors la victoire, enfin sa défaite, elle est consécutive à ce qu'on a appelé, qui est devenu célèbre, qui fait partie de l'histoire sans qu'on sache, enfin sans que beaucoup de gens sachent de quoi il s'agit. Il s'agit de la prise de la Smala d'Abdelkader. Alors qu'est-ce que c'est la Smala d'Abdelkader ? Enfin, la Smala d'Abdelkader, c'est un camp que Abdelkader, c'est un camp mobile, mais où il y a 20 ou 30 000 personnes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Français lui ont détruit ses places fortes physiques, des châteaux où il était enfermé, des villages et tout, il décide d'avoir une espèce d'état-major mobile. Donc il met son entourage, son personnel, son bétail, ses soldats, dans une énorme caravane de tentes. Il y a 30 000 personnes qui vont s'installer dans la campagne et qui bougent en fonction des mouvements de l'armée ennemie. Donc, c'est très innovateur. Alors, peut-être pas innovateur, parce que je réfléchissais en me disant, après tout, quand les Mongols viennent envahir l'Europe, peut-être ils progressent comme ça, avec un énorme camp mobile qui va d'étape en étape. Mais bon, donc il le fait, et il le fait bien. Et cette Smala d'Abdelkader, ça s'appelle comme ça en arabe, je ne sais pas si ça veut dire Smala en arabe, très précisément, Habib.
Smala, c'est une espèce de groupement, quoi.
Un groupement, voilà. Voilà, donc là, c'est un gros village, c'est presque une ville, 30 000 habitants.
Je pense Ismallah, nom d'Allah.
Oui, nom d'Allah.
Je pense qu'il s'agit comme voilà. Tu as dit.
Parce que c'est vrai que c'est passé, le mot est passé dans la langue familière française, ouais. On dit « il a ramené sa Smala ouais. ». Hein, ça veut dire tout le monde, tous ses amis.
Le nom Allah, Allah Ismallah.
Voilà. Voilà. Et donc cette Smala donc, est dans la campagne algérienne à un moment donné, donc on est en 1848, si je me souviens bien, ou 47, enfin un an près, c'est ça. Et à un moment donné, les agents de renseignement du général qui conduit les troupes françaises disent les guerriers et Abdelkader lui-même ont quitté la Smala, peut-être pour une opération d'inspection, pour une action militaire quelque part. La Smala n'est pas défendue. Et la prise de la Smala, c'est uniquement ça, c'est-à-dire que l'armée française, enfin, tout le corps expéditionnaire français, dirigé par le duc d'Aumale, va prendre la Smala, qui n'est pas défendue, les soldats ne sont pas là, Abdelkader n'est pas là, et donc ils vont profiter de cette occasion rare, et donc c'est de l'espionnage qui lui a permis de faire ça, et donc détruire... prendre toutes les richesses, violer toutes les femmes, détruire tout ce qui est possible de détruire, prendre tout l'argent, tuer le bétail, enfin, rendre la continuation, la poursuite de la lutte par Abdelkader quasiment impossible. Quand il revient quelques jours après de sa pérégrination, il n'y a plus rien, enfin, il n'y a plus qu'un un désastre énorme. Bon. C'est presque la fin, donc la capitulation suivra peu de temps après. Et je voulais m'arrêter sur cette question de la capitulation et de ses conditions. Dans les combats qu'il a menés, Abdelkader a été respecté par le colonisateur. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que c'était un chef de guerre remarquable. Ils ont même apprécié son humanité, puisqu'à un moment donné, il leur a dit « J'ai des prisonniers de guerre à vous, j'ai pas assez de quoi les nourrir, je vous les rends. Ouais. » Ce n'est pas un ange exterminateur du tout. Et donc, il a acquis, tout en étant l'adversaire, une estime du colonisateur et de l'armée d'en face, hein, comme un adversaire loyal. Et à ce moment-là, au moment où il capitule, il demande à partir en exil, en disant « j'ai perdu, je m'en vais ». Il demande à partir en exil au Levant, bon, c'est en Syrie, Syrie qu'il demande à partir. Et on lui dit oui. Et on lui dit oui, alors on, c'est-à-dire le gouvernement de l'époque, qui est encore la fin tout à fait du gouvernement de Louis-Philippe. Bon. Ah, hein? Et pourquoi on lui dit oui? Alors parce qu'il y a un lien entre la prise de la Smala et Louis-Philippe, parce que le duc d'Aumale, qui a conduit la bataille et qui a donc détruit la Smala, est le fils de Louis-Philippe. Donc on a une affaire de famille. Ouais. Bon. Donc la promesse de Louis-Philippe, de son fils, c'est de dire vous partez, vous allez en exil, on n'en parle plus. Bon. Au lieu de quoi, quand il se rend donc à la France, on le met sur un bateau, puis on le met dans une prison. Donc, dans l'expo au Mucem, c'est gentiment dit, c'est le parjure de la France. Oui, le parjure, on lui a menti, on lui a menti. Hein, bon, on lui a menti, et il va rester en prison, il va aller d'un endroit à l'autre, mais il va rester en prison, en gros, 4 ans, pas tout à fait 4 ans. Qu'est-ce qui se passe au bout des 4 ans? Alors là, il s'est bien comporté, ben, il est prisonnier, il n'est pas avec entourage, son équipe, il y a déjà un peu dispersé partout, parce qu'on a pris quand même un peu son encadrement avec. Et il se passe la chose suivante. Vous savez qu'à la fin de 1851, il y a un certain Napoléon III, qui ne s'appelle pas encore Napoléon III, qui a été élu à la régulière président de la République, qui va renverser la République et prendre le pouvoir pour lui. Et ce Napoléon III rend visite à Abdelkader dans sa prison. Il est prisonnier dans un château du côté du Val-de-Loire. Il lui rend visite. Et il y a une négociation qui a lieu. Alors, on n'assiste pas dans l'exposition à cette négociation. Mais à cette négociation, on parle de la question suivante. Vous avez demandé, alors j'imagine, je le refais devant vous, un dialogue qui n'a peut-être pas eu lieu dans ces termes entre Napoléon III et Abdelkader. Mais écoutez, la France, vous avez promis votre liberté en échange de l'exil. On est d'accord. Mais vous allez me signer un papier disant que vous ne vous mêlerez plus jamais de la politique en Algérie. Vous avez compris le signe, hein ? Et donc Abdelkader, il signe. Il dit, ben effectivement, je m'engage à ne plus jamais me mêler de la politique en Algérie. Donc pour moi, la bataille est finie. J'ai mené la bataille comme quand je pouvais la faire. Et maintenant, je passe à autre chose. Ma vie, c'est un autre chapitre de ma vie qui commence. Je pars à Damas et on n'en parle plus. Et à partir de ce moment-là, il commence à être respecté par la République française. Évidemment, il a capitulé. Il a été un chef de guerre respectable, un adversaire loyal. Il a capitulé, donc il ne gêne plus du tout. Et Napoléon III peut continuer la conquête. Il n'a plus d'Abdelkader en face, ni lui, ni ses héritiers. Et Abdelkader part passer le reste de ses jours. Il va vivre, il a 40 et quelques années. Quand
il est parti avec une suite, quand même.
Voilà, oui, il n'est pas parti tout seul.
Et ces gens-là, d'ailleurs, il y a les restes en Syrie. C'est
tout à fait.
Alors, il a quelques générations, quoi.
Tout à fait. Ouais. Il est parti avec sa suite. Il a vécu à Damas longtemps. Et même son corps, il est décédé à Damas. Son corps est resté longtemps à Damas et a été rapatrié sur Alger il n'y a pas très longtemps.
Par après, le président Boumédienne.
Voilà, après l'indépendance de l'Algérie.
Oui, oui.
Donc, retenez ça, c'est-à-dire que le parjure de la France, ce n'est pas la République, c'est la Restauration, qui dit vous partez, d'accord, et on vous laisse libre de partir, et ce n'est pas vrai, vous passez 4 ans en prison en prime. Ouais, et puis après, Napoléon III, très habilement, qui dit si vous signez qu'on ne vous verra plus, vous n'allez plus vous mettre au milieu de nos activités colonialistes, vous pouvez vaquer à vos occupations. Ce qu'il va faire. Et il va s'occuper d'ailleurs très activement de Damas, de la Syrie, et même il sera invité assez régulièrement par l'Empire français, puisqu'il est considéré comme un personnage sympathique et respectable, et puis qu'il est surtout inoffensif politiquement, on va l'inviter aux expositions universelles, à l'inauguration du canal de Suez, où il fait partie de la délégation française. Hein, voilà. Là, alors, la France est d'une générosité incroyable, et Abdelkader est un monsieur respectable. Bon. C'est là-dessus que je voulais insister, parce que ça y est en filigrane dans l'exposition du Mucem, mais c'est quand même pas expliqué si clairement, parce que c'est quand même un peu gênant. C'est pas très très joli à montrer que une fois qu'il a capitulé, dit je ne participerai plus jamais à la vie politique en Algérie. Effectivement, il était devenu politiquement inoffensif.
Ouais, c'est ça.
C'est tout à fait important de le dire. Voilà. Ça, c'était l'actualité locale et puis l'actualité coloniale aussi. Ça fait partie des façons dont le colonisateur travaille. Alors, ce n'est pas le seul cas de trahison de la parole des gouvernants par rapport à des peuples colonisés. Là, c'est un cas dont on ne parle pas beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a une image, vous verrez dans cette exposition, une image très positive de ce personnage, qui est un personnage de qualité. C'était aussi un théologien, c'était un lecteur du Coran avisé. Enfin, voilà. C'est quelqu'un d'intéressant. Et qui a même, dans certains de ses écrits, considéré que les pratiques de l'armée coloniale, du point de vue des droits de l'homme, c'était discutable. J'en dis pas plus. Parce qu'il voyait ça de très très près. Indépendamment de l'affaire de la prise de l'Asma. Voilà. Puisque je suis en France, j'y reste 2 secondes. Ou quelques secondes quand même. Vous avez tous suivi de près nécessairement le premier tour de l'élection présidentielle française. Et je voulais me risquer à un tout, tout petit commentaire, et puis je verrai si Roselyne ou Habib ont envie d'en faire un autre, qui est tout simple. Vous savez qu'Emmanuel Macron se représentait. Bon. Oui. Non, c'est important. Vous avez bien compris ça. Il se représentait. Or, il se trouve que pratiquement son score en pourcentage de voix n'a pas bougé depuis 5 ans. Mais ce qui est certain, par contre, c'est que son électorat n'est plus tout à fait le même, puisqu'on sait, par exemple, qu'une partie des Républicains, à commencer par nos élus locaux principaux, enfin, je veux dire, la métropole, le conseil régional et puis bien d'autres, se sont ralliés à Macron. Donc, ce nombre à peu près égal entre 2007 et 2022 ne doit pas cacher une modification de la population qui a voté Emmanuel Macron. On peut dire, pour faire simple, que c'est des gens de droite qui ont voté pour Macron, beaucoup plus qu'ils ne l'avaient fait, puisqu'ils avaient leur candidat à l'époque, qui s'appelait François Fillon, qui avait quand même fait 18% des voix. Bon. Ça, c'est une première donnée. Bon. Donc, ce n'est pas le même électorat. Mais ce qui est important, c'est qu'on nous a présenté ça depuis avant-hier, à longueur de journée, c'est la même chose qu'en 2017. Je dis non. Je dis, ce n'est pas la même chose, ce sont effectivement les deux mêmes personnages. Mais il y a d'un côté un personnage qui a été battu en 2017 et qui le sera peut-être en 2022, mais il y a un monsieur qui a exercé pendant 5 ans le pouvoir. Et donc, en fait, le score qu'il a eu montre qu'effectivement, il a à peine, avec ses ralliements de droite tardifs et intéressés, une popularité extrêmement faible.
Et hein. Ministre aussi.
Voilà, tout à fait. Il avait été ministre avant. Donc ça veut dire que le deuxième tour n'est pas pareil, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui a passé 5 ans au pouvoir, qui a mené une politique de droite, une politique à certains moments très autoritaire et très violente, je pense à l'épisode des Gilets jaunes, une politique où il a beaucoup menti, et donc c'est ce monsieur-là qui a été jugé. Et bien ce monsieur-là, il est assez bas dans la popularité, 27% des voix avec 26% d'abstention. Il y a plus d'abstentionnistes que d'électeurs de Macron aujourd'hui sur le territoire de la République française. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors après, on verra ce que donnera le deuxième tour, mais je voulais revenir sur cette mystification de dire c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Il y en a un qui a passé 5 ans au pouvoir. Je ne sais pas ce qu'aurait fait l'autre au bout de 5 ans, mais celui qui est resté 5 ans au pouvoir, nous avons, si nous le voulons, la capacité de le juger. Si on en a, et il en est le temps, puisqu'en vrai, il veut recommencer. C'est donc un peu le débat qui se présente devant nous. Et je n'en dirai pas plus.
Ah, on ne parlerait pas un peu de Mélenchon.
Ben, pour dire,
il a beaucoup progressé, quand il même, a, dans il les a, grandes villes. Hein.
Oui, oui, il a beaucoup progressé, mais parti d'un peu bas, et puis voilà, avec...
C'est vrai, des fois on est d'accord avec... Mais souvent, il n'est pas...
Voilà. Mais il n'était pas prévu au programme, je pense.
Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Il n'était pas prévu au programme.
Oui, moi, ce qui me gêne, c'est que Macron, il a quand même cette histoire d'affaire McKinsey, on va dire, qui n'est pas terminée. Et qu'une fois de plus, on a des gens qui ont des affaires, alors je ne sais pas si c'est pénal ou financière, pardon.
Oui, oui, oui.
Qui se présentent à la tête d'un pays. Moi, voilà. ça me choque. Voilà. Ça, voilà.
Et puis alors, j'ajoute sur l'affaire McKinsey qu'en fait, c'est un président de la République qui est aussi ce qu'on appelle constitutionnellement le chef de l'État, qui, quand il y a un problème dans l'État, fait travailler le privé. Comme si tous les fonctionnaires de l'État, et il y en a de nombreux, et il y en a des compétents, comme si tous ces fonctionnaires-là étaient nuls et étaient sans intérêt, ne savaient pas faire un rapport sur tel ou tel aspect des choses. Comme s'ils se protégeaient eux-mêmes, leur statut de fonctionnaire, pour ne rien dire sur le fonctionnement de la République française. C'est faire un peu, même très vite, dire passer par pertes et profits les fonctionnaires comme personnel incompétent, nul, etc. Voilà. Et donc, à la place, on fait McKinsey, on le paye grassement, et en plus, on met à la tête de McKinsey France le fils de Laurent Fabius, ce qui facilite beaucoup les affaires. Bon. Et on met à la tête de McKinsey Allemagne le fils de Mme Ursula von der Leyen, ce qui facilite aussi les affaires. Voilà. Donc, quand on a décidé de détruire l'État, puisque c'est ça la politique de Macron, parlons-en, hein, quand on a décidé de détruire l'État, on fait travailler le privé tout le temps à la place de l'État.
À la place de l'État, ah, oui.
Et c'est facile de dire, après, l'État n'est pas compétent. Ce qui ne veut pas dire que tous les fonctionnaires sont des génies, c'est pas ça. Mais chez McKinsey, il n'y a pas que des génies non plus. Hein. Simplement, ils donnent le résultat qu'on attend d'eux aussi. Il y a ça aussi dans le contrat privé. Ça paye bien à condition de faire quelque chose qui plaît aux clients. Hein. Plaire aux clients, c'est important. Le fonctionnaire qui fait un rapport à son ministre ou à son chef d'administration ne fait pas ça pour plaire aux clients. Il a un statut, il est protégé. On ne peut pas le mettre à la porte pour des divergences d'opinion. Donc, il fait une analyse plus honnête, et il peut faire une analyse plus honnête et plus objective du sujet. Un McKinsey qui rendrait un rapport en disant l'idée que nous a soumise M. X ou Y, président de la République ou ministre, est farfelue et tient pas debout, il n'aurait pas son contrat renouvelé, il n'en aurait pas d'autre. Hein. C'est ça, c'est un rapport de clientèle. Hein. Bon, ça paraît tellement évident. Bon, n'en parlons plus. N'en parlons plus. On va un peu parler d'un autre sujet qui a émergé à la fin de cette semaine sur les antennes et sur les réseaux, qui est la situation politique au Pakistan. Alors au Pakistan, on en avait déjà parlé un petit peu, est à la tête du gouvernement, donc un premier ministre qui s'appelle Imran Khan, qui a cette particularité qui s'est confirmée ces derniers jours, d'être très attaché à la souveraineté de son pays, qui est d'ailleurs souveraineté qui est écrite noir sur blanc dans la constitution pakistanaise actuelle, mais il a montré qu'il y était attaché, et à certains de ses comportements dans l'exercice de son mandat, il est au pouvoir depuis 4 ans, à la tête d'un parti qu'on a considéré comme centriste, mais dont l'affirmation et dont le socle, j'allais dire, est l'affirmation de la souveraineté par rapport aux puissances étrangères. Il l'a fait en particulier par rapport à la situation au Pakistan, en faisant savoir aux États-Unis qui partaient d'Afghanistan dans les conditions que nous savons, qu'ils ne voulaient pas subir les conséquences, c'est-à-dire ramasser tous les éclopés de la guerre des États-Unis, servir de lieu de transit, les transits d'armes, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer face à l'effondrement de la situation en Afghanistan. Il l'a dit clairement. Hein, alors il sait que le Pakistan a joué un très grand rôle, ses services secrets, son armée, dans la mise sur pied des talibans, dans leur alimentation, dans leur formation et tout, et il veut manifestement se sortir de ce rapport de dépendance, c'est-à-dire il ne veut pas être un serviteur de la politique impérialiste des États-Unis dans le pays d'à côté.
D'ailleurs, il devait être avec la coalition de l'Arabie Saoudite, le Pakistan, pour frapper le Yémen.
Et il a refusé.
Il a refusé.
Ah, voilà. Donc on a un acteur, qui est un acteur important, hein, 220 millions d'habitants dans le monde musulman, qui ne suit pas comme un toutou l'émir d'Arabie ou les émirs des Émirats arabes unis, et encore moins Israël. Bon, tout ça est très très important, parce que ça situe le personnage dans sa trajectoire politique. Bon. Il se trouve que ces rapports donc, étaient déjà intenses avec la Chine pour des raisons d'investissement, de transit, de voies de transport, de pipeline, d'installation d'un nouveau port sur la côte ouest du Pakistan. Enfin, tout ça fait partie des rapports importants entre la Chine, qui a une frontière commune toute petite, mal placée parce qu'elle est très en altitude, mais qui a une frontière quand même avec le Pakistan. Et ça, déjà, ça défrisait, j'allais dire, beaucoup l'Occident, de dire en fait cette alliance avec la Chine, c'est un peu gênant. Ça permet à la Chine d'avoir une fenêtre sur l'océan Indien. Bien sûr, vous arrivez au Pakistan, vous êtes sur l'océan, alors que la Chine n'en a pas. Enfin, tout ça tracassait un peu les stratèges aux États-Unis. Et puis, donc, les rapports avec la Chine étaient bons. Les rapports avec l'Inde étaient améliorés, c'est-à-dire qu'au lieu de centrer les rapports avec l'Inde sur la question épineuse, délicate et explosive pour les populations du Cachemire, voilà, la position d'Imran Khan, c'était de dire, bon, on ne dramatise pas, on essaye de se parler, c'est pas la peine de continuer à s'entretuer, il faudra trouver une solution à ce problème qui est important, mais c'est pas la peine de passer par la solution armée. Ça faisait partie aussi des acquis d'Imran Khan. Ça ne plaide pas toujours du côté des vendeurs d'armes. Ce n'est pas très intéressant, ce genre de propos. Dire on va se passer des armes pour régler un conflit qui dure depuis la création même de l'État pakistanais, je rappelle, hein, 1947, ce qui n'est pas simple. Bon. Ça, c'était une autre... Et puis, dernièrement, alors le dernier reproche qu'on lui avait fait, et qui était conjoncturel, c'était que je crois, le 25 ou le 26 février, hein, puisque le 24, donc, la Russie annonce son opération en Ukraine. Le 26, je crois, ou le 25, ouais. M. Imran Khan est à Moscou et en discussion avec Vladimir Poutine. Bon. Alors, lui, voilà, ça y est, maintenant, il s'est vendu, il a choisi son camp, etc. En fait, il faut savoir que cette rencontre était programmée d'ores et déjà et qu'il était au programme, au menu, question d'avancer et même probablement de finaliser un projet de gazoduc sur le territoire pakistanais. Alors, pourquoi un gazoduc ? Parce que de toute façon, le Pakistan manque d'énergie. Lui, il y a 220 millions d'habitants. Il n'y a pas de puits de pétrole, il n'y a pas de gaz sur le sol pakistanais. Donc, le Pakistan est dépendant d'importation de gaz et de pétrole. Et donc, ce gazoduc, dont le trajet est connu, donc il va de la mer jusqu'au tout au nord, donc presque à la limite de la frontière chinoise, ce gazoduc serait alimenté, donc, au moins dans un premier temps, par des navires qui apporteraient sur place du gaz naturel liquéfié. Ce gazoduc, de toute façon, sera construit par les Russes. Pourquoi il sera construit par les Russes ? Parce que, tout simplement, sur le marché mondial du gazoduc, et vu la quantité de kilomètres et de milliers de kilomètres qu'ils en ont posés sur leur territoire et à l'extérieur du territoire, les techniciens russes sont très, très pointus et très performants. Donc il n'y a aucun doute sur la qualité du travail, ils savent faire et ils le feront bien. Après, qui fournira ce gaz ? Alors il y a eu plusieurs hypothèses, ça aurait pu être du gaz venant d'un port iranien, le problème.
Vous voulez dire.
Voilà. Mais il y avait un problème de sanctions américaines qui rendait la chose impossible. Donc il se peut que ce soit simplement du gaz russe qui arrive, donc qui passe du gaz qui viendrait donc de l'extrémité orientale de la Russie par bateau, et puis qui serait déchargé là, sur la côte pakistanaise, pour alimenter le Pakistan. C'est important, et ça doit être rapide, parce qu'il y a aujourd'hui des coupures de gaz, et des moments où les Pakistanais n'ont pas de quoi faire la cuisine. Donc c'est tout à fait... Bon, c'était ça qui était... Alors c'est un dossier qui est bien engagé, qui n'était pas finalisé complètement, et donc la visite était prévue pour parler de ça et pour le finaliser. Ça voulait dire, et c'est vrai aussi, que les rapports entre la Russie et le Pakistan étaient de très bonne qualité. C'était des rapports de confiance. Et ça faisait partie tout à fait de la stratégie de Imran Khan et de son parti, qui s'appelle le PTI, consistant à dire « je suis souverain, je ne suis pas dans une alliance, je ne suis fâché avec personne, je ne suis ennemi de personne ». J'ai un projet avec les Russes, je le fais. J'ai eu des projets avec les Chinois, on les a faits. Je vais essayer de me comprendre avec le voisin indien. Mais c'est tout. Donc, je suis souverain. Ça, c'était sa ligne et il n'a pas cherché à en changer. Et donc, ce qui a mis le feu aux poudres, apparemment, aux États-Unis, c'est la visite à Moscou à cette date historique. Mais en fait, il y avait un dossier. Il n'est pas allé juste pour dire « je me mets à vos genoux ». Ce n'est pas du tout ça et ce n'est pas du tout le personnage. Il ne se met pas à genoux devant personne. Bon. Et alors, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que une manœuvre parlementaire a eu lieu. Alors, il y a des partis d'opposition dans le Parlement pakistanais.
C'est ça.
Et il y a une motion de défiance qui est prévue dans la Constitution, qui est passée de façon tout à fait, très très juste, puisqu'en fait, la majorité pour la motion de défiance était à 172 voix, et la motion de défiance en a obtenu 174. Ce qui veut dire qu'il y a eu dans la majorité de Imran Khan des gens qui ont changé d'avis, qui ont tourné leur veste, etc. Bon. Ça a été interprété comme des influences extérieures. On voit à peu près d'où elles pouvaient venir. Et on s'est retrouvé dans cette situation donc, où le Premier ministre fait face à un vote de défiance du Parlement qui doit le conduire normalement à la démission. C'était ça le but de la manœuvre. Alors il faut savoir que c'était la première fois que cette procédure de destitution, j'allais dire parlementaire, était appliquée au Pakistan. En même temps, c'est pas inutile de dire qu'il vaut mieux ça que d'assassiner le Premier ministre. Ça a déjà eu lieu, souvenez-vous, de Benazir Bhutto.
Ouais.
C'est même mieux que d'abattre l'avion du président. Ça a eu lieu aussi. Bon, on était plutôt... Si. Bon, donc, après tout, pourquoi pas si c'est ça. Bon. Mais c'était moindre mal qu'un assassinat pur et simple. Mais il était tellement peu assassiné qu'il a dit « mais moi, j'accepte pas ». Alors il aurait pu le dire et dire « c'est pas gentil ce qu'on m'a fait ». Le problème, c'est qu'une fois qu'il a eu dit ça, dans la soirée de dimanche, sur la quasi-totalité du territoire pakistanais, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties pour le soutenir et pour dire « nous ne voulons pas que des gouvernements étrangers décident à notre place ».
C'est ça.
Hein ? Donc ils avaient très très bien interprété le phénomène. C'était une pression des États-Unis sur un certain nombre d'éléments du Parlement, donc pour faire basculer quelques élus, pas plus que ça. Ce qui a amené la conclusion, alors il y a eu un flottement à partir de ça, donc forte réaction populaire sur une base, alors d'abord très claire politiquement, sur une base très paisible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tir, pas eu d'échange, pas eu de massacre, la police n'est pas intervenue, ni l'armée, ni rien du tout. Hein. Donc on a eu, regardé des vidéos dans la soirée de dimanche, des foules énormes dans les grandes villes pakistanaises disant « nous voulons être maîtres chez nous ». C'est exactement le message de Imran Khan et aucun autre de ce genre-là. Aux dernières nouvelles, hein, puisque les dépêches ont un peu été mélangées et pas toutes très claires, aux dernières nouvelles, finalement, le président de la République a refusé le vote de destitution, le vote de défiance, et il a dissous l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que dans un délai qui est constitutionnel, je crois que c'est 60 jours, enfin peu importe, dans un délai assez rapproché, il y aura de nouvelles élections parlementaires. Et vu le mouvement de masse qui s'est levé, vu son orientation politiquement très claire, vu l'absence de violence qui a été exercée par ces foules énormes par rapport à la situation, on peut espérer effectivement que le parti de Imran Khan, au lieu d'avoir quelques voix de majorité, en ait beaucoup plus dans 2 mois. C'est ce qu'on lui souhaite, parce qu'il faut l'affirmer comme ce personnage étant un élément de pacification de la zone de l'océan Indien, que ses prédécesseurs n'ont pas pu être ou n'ont pas voulu être, c'est tout autre chose. Mais on est sorti apparemment du...
Il faut dire que les Américains, avant, ils étaient bien implantés au Pakistan.
Tout à fait, puisque je dis, c'est eux qui ont facilité l'arrivée des talibans, qui les formaient, qui les... Hein. Je rappelle quand même que, si c'est bien vrai que c'est ça qui s'est passé, Ben Laden, quand il a été attrapé et liquidé, était au Pakistan. Hein.
Ouais. Bon. C'est pas...
On ne sait pas, parce qu'on n'a jamais vu qu'un linceul lancé dans la mer. Mais enfin, si c'était bien lui, il était au Pakistan. Et donc, il y avait des liens très, très étroits entre les services secrets pakistanais et l'armée américaine. Et les services secrets pakistanais avaient rendu de très, très grands services à l'armée américaine dans ses aventures militaires en Afghanistan. Bon, il semble bien, c'est très clairement, la page est tournée. C'est-à-dire que Imran Khan, elle a déjà dit, je ne suis pas là pour aider. Il l'a dit au moment, après le 15 août, quand les États-Unis ont quitté l'Afghanistan, il a dit, mais moi, je ne suis pas là pour ramasser les morceaux et tous les éclopés de vos guerres. Que les choses soient tout à fait claires. Voilà. Donc on attend. Moi, je me félicite de ce tournant. C'est une évolution. Alors après, on vous met derrière ça. Oui, mais en plus, c'est une puissance. Certes, c'est une puissance nucléaire. Mais enfin, je pense qu'il faut commencer à arrêter à dire dès l'instant où il y a un monsieur qui est à la tête de quelques armes atomiques, dit quelque chose qui fâche en Occident. On dit oh là là, il a la bombe atomique. C'est pas parce qu'il a la bombe atomique qu'il dit ça. C'est parce qu'il a une constitution et qu'il a un peuple qui veut être souverain chez lui. Ça n'a rien à voir avec la bombe atomique.
L'État d'Israël, c'est
oui, voilà.
Nucléaire.
Voilà, exactement. Bien. Alors, autre petit... Oui, je regarde l'heure, non ? Bon, ce sera le chapitre pakistanais sera réouvert quand on reparlera des élections, mais on a affaire à un tournant important, c'est-à-dire que le Pakistan a affirmé aux yeux du monde et aux yeux en particulier de Washington qu'il ne voulait plus être gouverné par un autre. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il va accepter, enfin qu'il est ami plus avec la Russie, la Chine, tout. Non, il dit, et c'est dans les textes constitutionnels, et c'est dans les programmes stratégiques qui ont été votés et adoptés par son pays, il veut simplement être maître chez lui. Bon. Et il pèse son poids, et puis il a ses problèmes, il a des problèmes de gaz, il a des problèmes d'approvisionnement, il a des tas de problèmes, mais il doit essayer de les régler. Bon. Et il s'occupe de le faire. Voilà, pour le Pakistan. Je voulais parler, parce qu'il y en a eu beaucoup, des différentes visites qui ont eu lieu dans le bunker de M. Zelensky. Alors je dis bunker parce que vous savez qu'apparemment, d'après les vidéos, il a encore un siège, enfin un bureau à la présidence de la République ukrainienne, mais apparemment on le voit plus souvent dans un lieu non identifié que les observateurs disent c'est le bunker qui était classiquement sous la présidence de la République depuis la période soviétique et c'est là qu'il se trouve.
C'est incroyable, ils arrangent à leur façon et leur manière, c'est fou.
Et oui. Et alors, mais quand même de temps en temps il en sort. Et donc, on l'a vu se promener dans les rues de Kiev en excellente compagnie, j'ironise, avec M. Boris Johnson, avec M. Joseph Borrell et Mme Ursula von der Leyen, voilà, qui sont venus lui rendre visite pour l'encourager. ils sont venus l'encourager en disant « Vas-y, continue la guerre et on te soutient.
Hein? » Ah, alors, des embrassades.
Oui, oui. Ouais. Alors, M. Boris Johnson, alors j'arrête sur Johnson parce qu'il est clair depuis ces dernières semaines que M. Johnson est pratiquement derrière et probablement même plutôt près de la conception de toutes les actions tordues menées par l'Occident contre la Russie, à la limite plus que les États-Unis. Parce que les services secrets britanniques ont une vieille pratique et une très longue expérience des coups tordus. Bon, donc là, il est à l'aise. Et puis, comme il est plus lié maintenant par l'Union européenne, il peut faire ça. Et puis, sont venus donc Madame von der Leyen et Monsieur Borrell, qui sont venus pour dire que l'Europe était du côté de Zelensky. Alors, c'est assez facile. Alors, Monsieur Borrell a un titre officiel, puisqu'il est porte-parole, enfin, il est représentant... On peut dire oui, chef de la politique étrangère de l'Union européenne. Ce qu'il faut noter, c'est que quand même, l'Union européenne n'a pas été spécialement consultée. Il n'y a pas eu de réflexion des uns et des autres. On n'a surtout pas consulté les parlements des différents 27 États européens. Ils y sont allés parce qu'ils avaient envie d'y aller. Puis c'était leur ligne, qui est en fait la ligne des États-Unis, à peu de choses près. Ça pose quelques problèmes d'ailleurs, puisque si vous avez suivi, mais ça a été noyé dans la campagne électorale, vous savez que dans la dernière jour de la semaine écoulée, il y a eu un échange de propos assez vif et assez venimeux entre le Premier ministre polonais et M. Macron. Voilà. Parce que, oui, hein, ça vous a échappé. Voilà, non, c'est intéressant d'y revenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, M. Macron a passé son temps, bon, on avait ironisé là-dessus en son temps, à dire qu'il avait eu Poutine au téléphone, qu'il savait parler et tout, puis à reconnaître après que ça n'avait pas beaucoup avancé, mais il faisait son travail, il essayait de maintenir un dialogue, une communication avec la Russie, il le faisait. Et il a donc été attaqué verbalement, par correspondance, j'allais dire, ils ne se sont pas vus, par le Premier ministre polonais, qu'il a accusé de perdre son temps en disant, puis d'admettre un peu honteux, c'est-à-dire que ce n'est pas ça la politique de l'Union européenne, de parler à Poutine. Et le Premier ministre polonais a dit, il faut l'abattre, c'est tout. Il n'y a pas à discuter avec lui. Et il a même dit, on ne lui parle plus. C'est-à-dire à Macron, écoute, arrête ta comédie. Ce à quoi, alors c'était méchant, c'était dit dans ces termes-là, hein, de Premier ministre à Président de la République. Et ce à quoi Macron a répondu, à peu près sur le même ton. Hein. Ça m'étonne pas de toi, etc. Enfin, il a pas dit vieil imbécile, mais enfin, il y avait un peu de ça. Puis après, c'est parti alors dans des chemins de traverse sur les mœurs, sur l'avortement, sur
LGBT,
LGBT. Si, j'ai le droit. Alors Macron accusant l'autre d'être anti-LGBT, lui, puis qui est donc le Polonais très anti-LGBT, répondant à Macron, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Enfin, voilà. Mais là, ça c'est parti dans des chemins de traverse. Mais le fond du problème, c'était de dire la position polonaise, qui est en fait la position américaine, c'est il n'y a pas à discuter. C'est la position, hein, il n'y a pas à discuter, il faut tirer. Il faut tirer et on envoie des armes pour ça. Allons-y. Bon. Et pour le Zelensky, le message est parfaitement clair. Hein, l'armement qu'il reçoit, il reçoit aussi de l'armement français, il faut le dire au passage, mais est destiné à poursuivre la guerre. Oui, on a parlé de négociations les premières semaines, les négociations sont terminées. Elles se sont suspendu de la façon suivante. Il y a eu des échanges de paroles. Ensuite, la diplomatie russe a demandé à ce que ces échanges de paroles soient consignés dans un écrit qui a été fait par l'équipe ukrainienne. Et quand la diplomatie russe a reçu ces écrits, ils sont aperçus qu'une partie des promesses faites en séance n'était pas dans le document. Ils ont dit, bon, ben, si c'est comme ça, effectivement, on perd son temps. Vous engagez verbalement, et après vous envoyez un papier, vous avez oublié tout ce que vous avez dit. Donc, effectivement, le dialogue devient difficile, et il est clair maintenant que, du côté occidental, il s'agit de poursuivre la guerre. Hein. De poursuivre la guerre, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, hein, j'allais dire, quoi qu'il arrive, avec toutes les armes possibles, sans trop se mouiller, en observant quand même de l'extérieur, c'est-à-dire, on dit à M. Zelensky, le travail, c'est à toi de le faire. On t'envoie des armes, nous d'abord on les vend, on est content, enfin, il y a des gens qui encaissent pour ça parce qu'on vend des armes et tout. On va tester d'ailleurs de nouveaux types d'armement sur l'armée russe, hein, puisque c'est un champ de bataille, donc on expérimente aussi des techniques nouvelles. Vas-y, vas-y mon petit. Bon, alors, peut-être il a des états de conscience, ce jeune homme. On ne sait pas. Bon, imaginons qu'il puisse y en avoir. C'est pas très grave. Il manquera un Shakespeare contemporain pour aller expliquer ce qu'il y a dans la tête d'un Zelensky. Mais ce qu'on voit et ce qu'on a vu, et ça, ça a été remarquablement illustratif, c'est le show de M. Zelensky devant le Parlement grec. Alors ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, mais ça, c'est vrai qu'à force, comme il a commencé aux États-Unis, en France, en Allemagne, enfin, il fait, vous savez qu'il fait des shows, donc il fait des zooms, comme on dit dans ces périodes, il fait des zooms devant les parlements, et donc il arrive habillé en espèce... Alors il n'a pas un battle dress, mais il a une espèce de tenue kaki.
Kaki, guerrier, quoi.
Guerrier,
c'est un comédien.
Oui, il se prend pour le Tché.
Voilà. Donc il est habillé en tenue de combat, sa tenue de combat, et il fait un discours, alors qui est bien travaillé, qui dit bien, parce qu'il fait son métier d'acteur, il n'y a pas de souci. Et chaque fois, il dit, allez-y, il faut y aller, aidez-moi, on va y aller. Bon, et donc, dans tous les cas précédents, jusqu'à l'intervention devant le Parlement grec, il était intervenu tout seul, assis à son bureau et lisant son discours. Et voilà-t-il pas qu'à la séance devant le Parlement grec, il est assisté d'un personnage qui est à sa droite et qui écoute. Et ce personnage s'avère être un fasciste du bataillon Azov ou de Svoboda, enfin un des fascistes. Ce qui veut dire que, et ça a créé scandale devant au Parlement grec, qui a dit, mais attendez, on nous fait parler un chef d'État, et à côté, on a un bandit qui le surveille. Alors c'est très intéressant, parce que, dire, c'est le moment où Zelensky, et l'opération en cours, tombe le masque. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire, et je l'interprète uniquement comme ça, ça veut dire que la personne qui est à côté de lui écoute ce qu'il dit. Si jamais il ne dit pas ce qui a été prévu et ce qui est attendu par ces gens-là, il mourra. C'est ça que ça veut dire, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. Ils assassinent les gens avec qui ils sont en désaccord, surtout quand ils ont une position de président de la République. Bon, donc voilà, le masque est tombé. M. Zelensky ne peut plus rien dire librement, si jamais il a pu le dire. Il est désormais complètement otage. Il est surveillé par les fascistes du gouvernement, des services de renseignement, enfin, il y en a un peu partout. Hein. Et donc, il n'a plus aucune liberté de manœuvre et c'est eux qui ont exigé d'être présents avec lui sur les caméras. Comme ça, il ne peut même pas faire un lapsus ou dire « ça, ce n'était pas dans le discours écrit, je l'ai rajouté », parce que ça, ça lui coûterait très très cher. Bon. Voilà, donc la page est tournée de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il est victime, il est ficelé pieds et poings liés. Donc l'Occident lui dit « va à la guerre et de toute façon, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu meurs ». Je ne fais pas un roman policier devant vous, c'est ça que ça veut dire cette séance au Parlement grec. Cette surveillance qu'on avait imaginée, on se doutait bien qu'il y avait des pressions, là ce n'est plus des pressions. Tu es sous surveillance, tu as un maître à penser qui est à côté de toi et tu ne peux pas te permettre le moindre écart de langage. N'ajoute pas une phrase dans ce qui n'était pas prévu entre nous. C'est bien compris. Bon, voilà. Alors, il va petit à petit intégrer cette leçon-là. Et nous, il faut qu'on l'intègre aussi, parce que c'est ça exactement la situation. Et donc, la diplomatie russe n'a pas tort en disant, de toute façon, on ne peut pas discuter, puisque lui ne peut pas discuter. Nous, on voudrait bien discuter, mais avec qui discuter, puisque notre interlocuteur, ils ne l'ont pas vu, lui. Ils ont vu son ministre des Affaires étrangères et ils ont vu d'autres représentants, des gens de son secrétaire. Mais ils savent que c'est ça la situation. Donc, ce n'est pas la peine de discuter avec quelqu'un qui a un revolver sur la tempe. Ce monsieur ne dira rien d'intéressant. Voilà, pour ce qui est de la situation, non, je n'ai pas tout dit sur l'Ukraine, on va en parler autrement. Mais on va passer une petite musique pour reprendre un peu notre souffle.
Surtout le tien.
Chercher sur internet HK. Ah, voilà. Est-ce que tu peux chercher HK sur internet? C'est un monsieur qui chante. On lâche rien, mais ça, c'est un autre de ses morceaux. Ok, HK, voilà, je continue. Alors, je continue, bon, on reste sur l'Ukraine, parce qu'il s'y passe des choses quand même assez intéressantes. Mais une anecdote d'abord. Une anecdote pour expliquer que l'Ukraine, depuis 1991, n'a pas cessé de s'enfoncer dans la misère, dans la débâcle économique et dans la misère populaire. Bon, ça, et donc, ça s'est traduit, et ça ne trompe pas, par une crise démographique d'importance. Je rappelle, donc 51 millions d'habitants en 1991, on est aujourd'hui autour de 38. Et je ne sais pas comment il faut compter les 3 millions de plus de départ qu'on nous a annoncé le mois dernier, parce que je ne sais pas comment on fait partir en 3 semaines 3 millions de personnes. On n'a pas vu de photos, on n'a pas vu de fil de personnes à pied, comme on en voit dans d'autres pays. 3 millions, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de monde. Voilà, c'est la bonne musique. Hein. Mais je finis ma phrase là, et puis tu passes. Et donc, crise démographique, donc au moins entre 10 et 15 millions d'habitants en moins. Hein, tous les autres sont partis. Alors, il en est certainement parti dans les dernières semaines écoulées, mais il en est parti tout le temps, sans désemparer, depuis les origines, parce que la politique menée par les riches et les oligarques n'était pas une politique populaire, c'était une politique antipopulaire. Bon, le résultat est là. On en est au point, je cite un exemple qui fait froid dans le dos, que l'Ukraine est aujourd'hui un des pays où on trouve le plus de femmes qui acceptent de faire les mères porteuses, parce que ça rapporte. C'est-à-dire, vous recevez un don de l'extérieur et vous portez un enfant pour d'autres pendant le temps de mois qu'il faut. C'est un des pays les moins chers sur ce marché-là. C'est un marché qui s'est développé, quelle que soit la condition de ces femmes qui se livrent à cette activité-là, parce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Hein. D'autres se prostituent. Enfin, voilà, ça fait aussi partie de la misère populaire, ça, hein, profonde. Et donc, je finis là-dessus pour dire que cette crise démographique donc, a mis une bonne partie de la population dans la misère, qu'elle se poursuit et que la volonté occidentale maintenant manifeste de faire continuer cette guerre ne peut que déboucher sur une situation encore plus catastrophique, c'est-à-dire de faire des anciennes républiques socialistes comme l'Ukraine, qui était la plus riche et la plus développée industriellement, intellectuellement, jusqu'en 1991, d'en faire l'enfant maudit, l'échec total de cette vision du monde, parce que ça a arrangé les États-Unis que l'Ukraine fasse des misères à la Russie. Voilà. Maintenant, on passe à la musique de HK.
Jamais docile ni vraiment sage, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh, oh, penser enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Et voilà. Alors, on veut continuer à danser et surtout, ne broyez pas du noir pendant la quinzaine qui s'annonce. Hein, les semeurs de peur, les semeurs d'angoisse. Non, il y a des lendemains au présidentiel, il y a des lendemains dans les luttes, il y a des lendemains dans le peuple français, pas simplement dans les organismes de sondage. Voilà. La partie n'est pas finie, elle n'est jamais finie de toute façon. C'est ce qu'il faut dire tant qu'on est vivant. Et qu'on danse. Voilà. Alors, je vais parler, dire quelques mots sur l'émission de demain soir qui méritera votre curiosité et votre attention. Nous aurons demain soir en ligne, au téléphone, un avocat qu'on a déjà entendu sur cette antenne, qui s'appelle Gilles Devers, qui est avocat, entre autres, de la Palestine devant la Cour pénale internationale. Il est aussi l'avocat, la dernière fois qu'on l'a entendu en ligne, c'était à propos du Front Polisario, dont il est aussi l'avocat, donc spécialisé dans les affaires juridiques touchant les rapports internationaux entre les États ou futurs États. Alors, pourquoi il est avocat de la Palestine devant la Cour pénale internationale ? Parce que, au bout d'un certain temps, et après de nombreuses tentatives qui étaient infructueuses, l'autorité palestinienne a accepté d'utiliser la voie des recours devant les tribunaux pour essayer d'affirmer ses droits. Ça avait été négligé ou considéré comme secondaire par rapport à la lutte concrète sur le terrain et tout. Et en fait, le cap a été passé il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des plaintes déposées et acceptées par la Cour pénale internationale contre les pratiques de l'État israélien sur le sol de la Palestine. Et donc, Maître Gilles Devers est un des avocats qui suit ces dossiers-là. Ça, ce serait d'abord son témoignage, mais ça l'a amené à aller plus loin. C'est-à-dire qu'en travaillant sur ces dossiers, il a été obligé, et ça fait partie donc de la phase initiale du dépôt de plainte devant la CPI, de montrer que la Palestine est un État de droit reconnu qui peut porter plainte contre l'État d'Israël, ou contre les dirigeants, puisqu'il s'agit de cours pénales. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et donc il s'est emparé de ce sujet-là pour écrire un gros ouvrage qui va sortir dans quelques jours, qui s'appelle, alors je vous donne le titre, puis après je vous expliquerai, qui s'appelle Jérusalem-Est sous la protection du droit international. Sous-titre, un guide pour comprendre l'avancée de la procédure devant la Cour pénale internationale. Donc là, il s'agit effectivement qu'il nous raconte ce qui est en train de se passer au niveau judiciaire devant cette Cour pénale internationale, puisqu'il est reconnu qu'aujourd'hui, l'État de Palestine existe, qu'il a une existence juridique et qu'il peut porter plainte. Bon, qu'on avait tendance à nous faire oublier, vous comprenez. Et le titre, alors je m'arrête sur le titre parce qu'en fait dans ce livre qui a trois grands chapitres, il y a un chapitre sur l'histoire de la Palestine et de l'État d'Israël qui récapitule et qui repasse toute l'histoire depuis même avant 47 et 48 pour expliquer comment on est arrivé à la création de par l'ONU de l'État d'Israël et d'un État palestinien qui n'arrive pas à vivre, qui a beaucoup de peine mais qui existe en droit. Et puis toutes les étapes du processus qui ont fini par faire croire que l'État palestinien ne verrait jamais le jour, que de toute façon, il était totalement impuissant, qu'il n'avait même plus de territoire, etc. Bon. Et donc, le retour en arrière, qui est la première partie du livre, est très, très intéressante, puisqu'il raconte tous les épisodes qui ont fait que, peu à peu, il a été rentré dans la tête des opinions publiques, en particulier en Occident, le fait que l'État palestinien, il n'y en avait pas, de toute façon, il n'existait presque plus, que c'était corrompu, que c'était ci, que c'était ça, et tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, l'ONU a un rôle pas brillant dans cette affaire-là. Beaucoup d'autres non plus. Tous les accords, ceux d'Oslo et tout, ont consisté à faire taire les Palestiniens systématiquement, à nier leurs droits. Bon. Donc, ce qui se passe devant la Cour pénale internationale, c'est le début de la reconnaissance des droits du peuple palestinien sur leur terre, sur leur État qui existe juridiquement, et le droit au retour, qui est un élément fondamental de la revendication palestinienne. Tous ceux qui sont partis avec l'épée dans le dos, comme on dit, ont le droit de revenir. Ils reviendront peut-être pas tous, mais le droit fait partie, en droit international, il n'y a pas que dans le cas de la Palestine, tous les gens qui ont été chassés de leur pays par des guerres ont le droit de retourner. On a une foule de cas en droit international de ce type-là. Bon. Ensuite, il parle, le deuxième chapitre, sur Jérusalem-Est, qui fait l'objet d'un traitement particulier, puisqu'on connaît le statut de Jérusalem compliqué. Il en parlera abondamment dans l'émission. Et puis ensuite, il explique où il en est, c'est la fin du livre, comment comprendre l'avancée de la procédure devant la Cour pénale internationale. Et ce qui veut dire, par exemple, je repense un peu à Jérusalem, que quand Donald Trump a décidé d'installer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, il s'est assis sur tout ce droit-là. Et il a fait l'air de rien, parce que alors, ça, c'est Trump tel qu'on peut l'imaginer rétrospectivement maintenant. C'est-à-dire faisant des petites choses. Il a pas envoyé des missiles, il n'a pas tué 50 personnes et tout, mais il fait des gestes qu'il pense irréversibles. Et il pensait que là, c'était irréversible, que Jérusalem partagée ou Jérusalem palestinienne, c'était fini, puisqu'il y avait l'ambassade et qu'on n'en parlait plus. Même chose pour la résistance iranienne. Assassiner Soleimani, c'était juste un crime. Mais c'était un crime contre l'autonomie et la souveraineté iranienne. Bon, ça, c'est la politique internationale à la Trump, c'est-à-dire pas de grands effets guerriers, mais des cibles extrêmement précises et très meurtrières en termes politiques. Bon, et à la fin, donc dernière partie du livre de Gilles Devers, un guide pour comprendre l'avancée de la procédure devant la Cour pénale internationale. Ça, c'est très, très important. Mais retenez ceci. L'État palestinien existait bien avant en droit que l'État d'Israël. Pourquoi ? Je le dis en un mot, puis il y reviendra abondamment. Parce que quand la Palestine est mise sous mandat de la Société des Nations, par la Société des Nations nouvellement créée, alors vous savez que le mandat de la Palestine est exercé par la Grande-Bretagne, le mandat de la France, confié par la même Société des Nations, sur la Syrie et sur le Liban, puisque ça en fait partie à l'époque, ce sont donc des États qui sont reconnus. Donc ça veut dire que la Syrie, comme la Palestine, existe en droit international depuis la fin de la Première Guerre mondiale et même avant, parce qu'il y a des antécédents, parce qu'on n'a pas créé, pour faire plaisir à la Grande-Bretagne, un État palestinien sous mandat qui n'aurait pas existé, qu'on aurait sorti d'un carton. Donc il existait. Bon, c'est ça qui est important. Et il existait historiquement. Bon. Donc c'est ça le point de départ. La Palestine existait, préexistait très très largement à l'État d'Israël. Elle ne peut pas disparaître. Et l'usurpateur, c'est Israël, c'est pas la Palestine. Bon. De là, le parcours juridique qui est en cours et qui nous racontera, mais ça mérite d'être dit et écouté parce que ce n'est pas le discours auquel on finissait par s'habituer en disant ben, « ces pauvres Palestiniens, ils n'y arriveront pas, on fait des manifestations de soutien, mais pff, voilà, ça ne bouge pas, etc. » Ça peut bouger et le fait d'avoir posé ce principe du recours au droit est un avancé dans la lutte des Palestiniens, puisqu'en fait, ils ont tout ce qu'ils demandent, le droit au retour, le droit à un État souverain, le droit à leur sol qu'on leur a pris, c'est juridiquement fondé, ils ont le droit pour eux. Bon. Après, on sait qu'en face, il y a la force. Bon, mais on a compris, mais la bataille qui est en cours, elle est sur ce terrain-là, c'est-à-dire passer du rapport de force brutal, soutenu par les États-Unis en permanence, au rapport de droit qui s'inscrit dans les normes du droit international tel qu'il fonctionne sur l'ensemble de la planète. Ça, c'est pour annoncer l'émission de demain à 20h. Et puis, je reviens rapidement, petite nouvelle sur l'Ukraine. Alors, une petite anecdote historique. Vous savez que la Chine a deux porte-avions. Un qu'ils ont acheté et l'autre qu'ils ont construit. Celui qu'ils ont acheté, ils l'ont acheté à l'Ukraine. Alors pourquoi ? Ben parce que l'Ukraine, je vous l'ai dit, grande puissance industrielle, l'Ukraine savait tout faire. Hein, y compris du temps de l'URSS, c'était sans doute la république la plus avancée industriellement. Tous les porte-avions de l'URSS, il ne reste plus aujourd'hui qu'un porte-avions russe, s'appelle le Kuznetsov, ont été fabriqués dans un chantier naval ukrainien, tout près d'Odessa. Bon. Et le Liaoning, s'appelait pas Liaoning, bien entendu, il avait un autre nom, il était en cours de construction au moment où l'Ukraine devient indépendante, et après, la crise économique, les difficultés sociales fait que le gouvernement ukrainien ne sait plus quoi faire de ce porte-avions. Il n'a pas de politique dans ce sens, et puis je pense que les États-Unis ne l'auraient pas laissé faire, et donc il va chercher à s'en débarrasser, disons même à le brader. Alors, il y a déjà d'autres bateaux de guerre, et dont deux vieux porte-avions russes qui ont été vendus pour faire des casinos flottants. Bon, pourquoi pas? Bon. Voilà, pourquoi pas. Et donc, ce qui va se passer, et l'anecdote est amusante, c'est que les Chinois vont inventer une société écran, donc ce n'est pas le gouvernement chinois, c'est une société écran dirigée par des Chinois, qui achète le porte-avions ukrainien pour en faire un casino à Macao, la colonie portugaise qui est bien connue pour toutes ses maisons de jeu, etc. Et donc le porte-avions va s'en aller d'Ukraine, donc traverser la mer Noire, etc., arriver en Chine, et puis de là, on s'apercevra à Macao qu'en fait, c'est le gouvernement chinois qui l'a installé, qui l'a acheté, et qui s'en est servi, c'est encore vrai aujourd'hui, pour se faire la main sur l'arme de port. Le porte-avions, c'est un objet compliqué, avec des avions, beaucoup de monde, des milliers de personnes à bord, des systèmes de défense, une flottille qui l'entoure, etc. Et donc les Chinois ne savaient pas faire ça. Ils ne savaient pas comment même on conduisait un porte-avions. Bon, ils ont appris, donc fini le porte-avions qui était pas fini par les Ukrainiens. Ils l'ont achevé, donc après ils l'ont mis en service et ils ont appris le métier. C'est-à-dire, ils ont appris le métier, c'est-à-dire comment on conduit un porte-avions, comment ça se comporte, comment on fait décoller les avions, comment on les fait atterrir. Enfin, tout ça, ils ne savaient pas faire. Imaginez que vous, de bien, vous héritiez d'un porte-avions. Ça aurait été bien triste. Hein, bon. Et donc, une fois qu'ils ont eu la connaissance de ce type d'engin et de sa gestion, ils en ont construit tout seul un deuxième. Ah, voilà. Et puis, ils vont en construire un troisième. Maintenant, ouais. Ils savent comment ça marche, à quoi ça sert. Ils ont formé les officiers, les sous-officiers, les matelots, etc., les pilotes. Tout ça est opérationnel. Ça, c'est la façon de travailler de la Chine. Bon. Je ne me rappelais pas, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'Ukraine a vendu tout ce qu'elle pouvait. Alors, elle a vendu. Celui qui a vendu, parce que c'était ça la corruption ukrainienne, celui qui a vendu le porte-avions à la société écran chinoise a gardé l'argent dans sa poche. Ce n'est pas allé dans le trésor ukrainien. Hein. C'est le patron du chantier qui a dit « j'ai vendu ça, pas cher, 200 000 dollars, je ne crois rien du tout pour un porte-avions ». Et il a gardé les sous. Oui, non, mais c'est ça l'Ukraine contemporaine, c'est ça qu'on ne nous explique pas. Bon. Dernière chose sur l'Ukraine, je regarde l'heure. Hein. Dernière chose, ça y est, alors là, c'est la joie dans les états-majors au point russe. Ça y est, ils ont un général américain sous les verrous. Oui, alors, j'explique. Vous avez suivi, alors, à la façon dont on vous l'a raconté, la bataille de Mariupol. Et vous avez compris qu'une partie de l'armée ukrainienne était encerclée dans Mariupol, par les troupes à la fois des républiques indépendantes et de la Russie. Et puis, ils ont vu arriver, donc les armées donc, qui enserraient Mariupol, savaient qu'il y avait dedans des éléments de l'armée ukrainienne, et puis peut-être d'autres gens. Et ils ont vu, alors ils ont entendu des manifestations de soutien et puis d'inquiétude, je pense encore à Emmanuel Macron, qui disait « Ah, il faut laisser ces braves gens sortir hein, », parce qu'ils savaient très bien qu'il pouvait y avoir. Voilà. Et en fait, ils ont donc, dans un premier temps, abattu deux hélicoptères qui arrivaient de l'extérieur pour enlever un certain nombre de personnages du milieu. Et puis, ils se sont dit, abattre l'hélicoptère, c'est pas très intéressant parce que l'hélicoptère n'a pas fini son travail. L'important, c'est de le laisser atterrir, de le laisser charger par le personnel, parce que c'est pas 50 000 personnes qu'on met sur un hélicoptère, on prend les gens importants, hein, de le laisser décoller. Et au moment où il décolle, c'est là qu'on l'abat. Et on ramasse les personnels qui sont à l'intérieur. Ce qui s'est fait pour les hélicoptères suivants. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un général de l'armée des États-Unis qui est dans les prisons russes et qui s'appelle le major général Roger L. Cloutier, qui a été capturé par la Russie alors qu'il tentait de fuir Mariupol après avoir donné des directives militaires aux forces ukrainiennes et mercenaires. Voilà.
Faire une précision. Ce général américain ne sera peut-être pas plus maltraité que s'il était dans une prison américaine. J'ai lu récemment un article sur les prisons américaines dans le Grand Soir Info que j'invite les auditeurs à aller chercher parce qu'il est, il nous décrit bien les prisons américaines et les Russes n'ont rien à leur envier.
Voilà. C'est le plus grand système carcéral du monde.
Il y a une autre chose aussi, il y a des personnels de l'ambassade russe en France. Qu'ils ont été, je ne sais pas si tu es au courant.
Non.
Oui, il y a des personnes, quelques personnes russes qui ont été indésirables. Et
ils ont expulsé des diplomates.
Soi-disant, ils faisaient de l'espionnage contre la France. Voilà.
Dans toutes les ambassades, il y a des espions, en fait. Dans toutes les ambassades du monde et de tous les pays. Bon, c'est facile. Ça fait partie de l'état de crise qui est généré en permanence. Et puis, il y aurait peut-être aussi quelques agents des services de renseignement français qui seraient dans cette opération de Mariupol. Voilà. Ouais. Tout est dit, mais on en reparlera la semaine prochaine et demain soir, donc, pour la Palestine. Merci, Hamid.
Resulta extraño que el mundo se alarme cuando se reúnen a hablar de desarme. Pues así que empiezan las negociaciones. Encima la mesa ponen los cañones. Y la OTAN, rataplan. Ay, Felipe, no te nos retrase y a ver lo que hace con lo de la OTAN. Se tiran del moño y ruedan por tierra y son como niños jugando a la guerra. Yo tengo una bomba, yo tengo...